toutes et à tous, à chacun, à chacune, Christophe Jubien pour vous accueillir aujourd'hui dans votre émission Ensemble consacrée au monde associatif chartrain. Alors je suis particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui Jackie Baroche, président de la commune libre de Saint-Brice à Chartres, et Jean-Michel Dujon de la même commune libre de Saint-Brice. Alors je dis particulièrement heureux parce que Jackie Baroche et Jean-Michel Dujon sont d'excellents hommes, bien évidemment, mais aussi parce que j'habite ce quartier Saint-Brice qui a derrière lui une longue et importante histoire. Saint-Brice, c'est un petit monde et nous allons le découvrir aujourd'hui grâce à Jackie Baroche qui en est la mémoire vivante. Et pour cause, il y est né comme ses parents et comme ses grands-parents, je crois.
Bien sûr.
Bah oui. Bonjour Jackie, est-ce que je dois vous appeler monsieur le maire en fait?
Ah oui, au moins ça.
Au moins ça, oui.
Jackie, ça ira très bien.
Qu'est-ce qui différencie, parce que normalement on doit dire, je crois, le maire d'une commune libre. Qu'est-ce qui différencie, je veux dire, une commune libre d'un comité de quartier, par exemple?
Alors, il faut savoir qu'il y a fatalement eu des statuts. Donc on est affilié aux communes libres de France avec des statuts et des règles. Et donc on fonctionne un petit peu comme un conseil municipal. Donc avec un conseil municipal, c'est-à-dire une assemblée élue, avec des adjoints et un maire, donc qui est en fait le président d'une association, tout simplement, hein,
ouais.
Tout simplement. Mais donc, on fonctionne un peu comme ça, et ça permet de créer des responsabilités à chacun en fonction de leur qualité, de leurs compétences et de leur disponibilité. Donc, on arrive à monter ensemble des projets, tout naturellement, en faisant une analyse de chaque individu et d'essayer de les mettre complètement en valeur, en fonction de leur qualité. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué.
Alors, cette commune libre, c'est un des interlocuteurs privilégiés de la municipalité. C'est pratiquement, c'est sans doute le comité de quartier le plus influent à Chartres.
Alors oui, ça a été, on a toujours été un peu le bras armé des municipalités, c'est un peu vrai. Ça permettait, alors bon, sous Georges Lemoine, c'était une évidence. Avec Jean-Pierre Gorge, c'est exactement la même chose, avec quelques nuances, mais c'est toujours la même efficacité. Quoi.
Ouais.
Et ils ont toujours répondu présent à nos appels, à nos idées, et ils nous ont toujours aidés d'une manière très importante. Ouais. C'est évident.
Alors c'est vous, je crois, qui l'avez créé la commune libre.
Il faut remettre les choses dans le contexte, si vous voulez. Il y avait des antécédents sur ce quartier. Le quartier a toujours eu une forme d'autonomie. Et il y a même encore des droits coutumiers. Donc c'est assez drôle et on pourrait presque, j'allais dire, les remettre au goût du jour.
Qu'est-ce que c'est que ces droits coutumiers?
Alors les droits coutumiers remontent pratiquement au Moyen-Âge. Hein. C'était en fait des lieux qui étaient réservés souvent aux indigents. Les gens allaient faire paître leurs bêtes et c'était des droits coutumiers qui ont été transformés en délibération municipale dans les années 1880. Ça. Et c'est toujours en vigueur. Donc on peut... Alors là, c'est le gag, mais le pré au bœuf qui se retrouve être en fait le terrain de rugby, qui fait grosso modo 3 hectares et demi, c'est le fameux pré au bœuf qui est toujours réservé aux habitants du quartier. Et alors à des dates bien précises, on a toujours le droit d'aller faire paître nos bêtes si on en avait. Voilà,
c'est donc, assez drôle. Donc dimanche prochain, je peux aller pique-niquer pendant la mi-temps de l'entente Chartres.
Bah, à la limite, il y a un risque à prendre, mais il faut le prendre.
Alors, la commune libre est très importante de par ses activités et l'animation qu'elle met dans la ville avec des rendez-vous qui sont vraiment très prisés des Chartrains. Je pense évidemment à la fête des vendanges avec des battages à l'ancienne, des moutons qui débarquent dans Chartres. C'est vraiment une vie extraordinaire pendant ce week-end de la fête des vendanges.
Alors, c'est dans la continuité. Hein. Il faut se dire que on a toujours été, enfin, au niveau de l'association, on a toujours organisé des manifestations à connotation agricole. Hein. On a toujours soutenu l'agriculture, les traditions, notamment les traditions agricoles, la mécanisation. Donc, on a commencé les premières manifestations sur le quartier avec quand même en toile de fond des gens qui nous ont montré le chemin, notamment les confréries Sur le secteur, on avait la confrérie des maraîchers.
Ouais, ça, on en parlera tout à l'heure avec l'historique.
Donc, on a un peu, on est reparti sur ces bases-là, mais c'est très important parce que on a bénéficié à une époque d'un fonds financier que ces gens-là avaient, mis en banque et dont on a bénéficié pour démarrer l'association. On était dans la continuité. C'est pour ça qu'en fait, on a pu bénéficier de cette trésorerie qui nous a permis d'exister. Parce qu'il est bien évident que sans budget, on peut avoir de bonnes idées. On a beaucoup de mal à les mettre en place. Oui. Voilà, c'est une évidence. Donc, les premières manifestations que l'on a faites étaient basées sur la remise en place de l'église, la réouverture de l'église, ce que l'on a fait à l'époque, puisqu'en fait, nous avions une convention avec l'hôpital, et on l'a utilisé pendant une dizaine d'années, où on a organisé les concerts, on a organisé, bien sûr, les messes de minuit, ça, c'était vraiment le fait d'armes, quoi, et qui ne se limitait pas au quartier, mais à toute la ville.
Oui, alors là, on parle de l'église Saint-Martin-au-Val, qui est une des plus vieilles églises de Chartres, et je rappelle que les évêques, avant d'être ordonnés autrefois, et là, je parle il y a très longtemps, même Fulbert devait passer la nuit dans l'église de Saint-Martin-au-Val. Hein.
C'est ça même. Et dans la crypte.
Et dans la crypte. Donc c'est un haut lieu, Chartres.
Absolument. Et là, on en a visuellement l'évidence. C'est-à-dire qu'en fait, à travers les fouilles que l'on découvre en ce moment, il y a énormément de tombeaux d'évêques que l'on met au jour. Là, je pense que sur le plan visuel, on en a grosso modo une bonne quinzaine que l'on découvre là à 3 mètres en terre, en plein milieu de la nef.
Ouais. Et est-ce qu'on peut parler des projets que vous avez pour l'église Saint-Martin-au-Val?
Oh, des projets, on en a maintenant entre le projet et la réalisation. On aimerait que les choses avancent bien, mais c'est vrai que pratiquement tout converge pour qu'on puisse considérer que l'église pourrait être réouverte et même au culte, puisqu'en fait je pense que l'évêché est tout à fait partant. À la limite, peut-être pour créer une paroisse. Donc ça,
ce serait une grande nouvelle, ça, pour le quartier.
Ça serait, à mon avis, très important pour tout le monde. Pour tout le monde, bah, pour le quartier, bien sûr. Mais le quartier, ça serait vraiment la cheville ouvrière, sans les gens sur le... Parce que la proximité est fondamentale. Dans tout ce que l'on organise, la proximité fait que on réussit ou on réussit pas. Donc ça c'est le leitmotiv. Donc quand on habite à 500 mètres maximum d'un point de rencontre, c'est le maximum. Donc à partir de là, vous placez un point et vous prenez un compas et vous vous apercevez que 500 mètres, c'est pas énorme, mais passer cette distance, hein, qui était très théorique, fait qu'à un moment donné, on va se déplacer ou on va pas se déplacer. Ça joue à peu de choses. Donc ça, ça a été pour nous un élément moteur pour la construction de la commune libre. Ouais. Et la proximité, et puis après l'adhésion à des projets. Donc si vous mettez en place des projets, tout naturellement, vous avez un certain nombre de gens qui adhèrent. Et il faut toujours être en mouvement, Ne pas rester sur des acquis. Les acquis, ben, ils sont passés, on passe déjà à autre chose. Et systématiquement, il faut toujours être en mouvement. Même si à la limite, on va placer la barre très haut et ne pas forcément sauter la hauteur, ça nous a fait avancer.
On a 3 essais généralement pour le saut en hauteur, donc on a le droit de se tromper. Il y a, évidemment, j'ai parlé des fêtes de la fête des vendanges qui est très importante. Et s'il y a une fête des vendanges, c'est qu'il y a une vigne aussi. Et ça, c'est la seule vigne qui existe à Chartres, si je ne m'abuse.
Oui, c'est vrai. La seule déclarée qui est aux normes, parce que là encore, c'est pas simple du tout. C'était compliqué pendant un certain nombre d'années.
La vigne, elle est née quand?
Alors, elle est née dans les années... Dans
les années 70-80, non?
Non. L'association a démarré en 77-78. Mais dans la continuité, j'allais dire, de la fête des maraîchers, il y avait une structure, des hommes qu'on a connus. Et donc, ce mouvement au niveau des manifestations et des fêtes, ça a toujours été un lieu animé avec des nouveautés. notamment quand on voit les soirées que l'on a fait sur le plan des archives et les photos d'archives, on s'aperçoit que à cette époque-là, aussitôt après la guerre, on faisait des courses de motoball,
oui.
On faisait des courses de vachette, on faisait sur le quartier, il y a toujours eu une grosse animation. Et dans cette continuité, la première fête Beauceron qu'on a fait en 80 a été le point de départ financier, j'entends, pour lancer la commune libre.
Pour lancer la commune libre, d'accord.
Oui, donc parce c'est... que cette fête, c'était une fête agricole, essentiellement agricole, parce qu'il faut savoir que le quartier Saint-Brice, à l'époque, touchait le Coudray, touchait Morancé, il y avait des fermes autour, on allait chercher le lait avec la litière, quoi, je veux dire. Hein. Le quartier était quand même ceinturé.
On va voir ça après, parce que je voudrais juste qu'on parle, avant d'aborder l'historique, juste de la vigne, parce que vous faites la taille, vous récoltez, et vous faites du vin, le rosé de Chartres.
Tout à fait.
Un cépage gros lot.
C'est ça même. Vous savez tout.
Mais vous nous parliez aussi des liens que vous entretenez avec une confrérie de vignerons, je crois.
Alors oui, on a démarré l'idée. Alors il faut quand même reconnaître que pour construire cette vigne, il nous a fallu une convergence positive, c'est-à-dire notamment du maire de Chartres et du directeur de l'hôpital, qui à l'époque était Monsieur Calmont. Et lui a tout de suite adhéré au projet. Et donc ces gens-là se sont réunis, avec nous évidemment, pour mettre en place et avoir surtout les autorisations de planter, sachant qu'on n'est pas dans une zone de vignoble, et ça a été très compliqué. Il a fallu grosso modo une bonne année de palabres, de rencontres, d'autorisations pour arriver à construire cette vigne d'une manière légale. Voilà.
Jean-Michel Dujon, vous participez, vous, à la taille ou à la récolte de...
Alors, la vigne, non, je ne participe pas spécialement. Ouais. Moi, je suis rentré à l'association il y a un an.
Oui, vous êtes un nouveau...
Oui, je suis un jeune et j'apprécie beaucoup.
Qu'est-ce qui vous a attiré, au fait?
Mon voisin.
Il faut toujours se méfier des voisins. Hein. On n'est jamais assez prudent.
Il était le président. Et donc, il m'a invité à venir, à participer à une réunion. Et puis depuis ce temps,
Vous avez un rôle particulier, vous avez...
Je m'intéresse un petit peu à tout le fonctionnement de la commune, l'association. Je crois que c'est intéressant.
Oui.
De la mise en place des projets,
Moi, j'ai pris l'habitude de l'emmener avec moi, parce qu'en fait, il est nécessaire qu'on soit au moins deux à connaître les choses, les rouages. Mmh. On ne peut pas mettre tout le monde au courant de tout. Et puis, on est toujours en mouvance. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui sont en gestation dont on ne peut pas parler, mais on est déjà au courant ensemble. On a déjà et ça me permet, moi, personnellement, d'avoir un interlocuteur et d'avoir un avis proche. C'est la porte à côté
en plus,
de chez moi.
En même temps, j'apprends.
Ouais.
Voilà. C'est très intéressant. Il y a les contacts humains aussi avec les autres membres et tout.
C'est combien d'adhérents, à peu près?
Oui, autour de 80, quelque chose, 90. Ouais. Ça, on pourrait être beaucoup plus, je veux dire. Mais le problème, c'est que à une époque, on était beaucoup plus nombreux parce qu'on avait un moyen de communication, on avait un petit document et on faisait surtout, il y avait beaucoup de commerçants. Alors, je ne sais pas si vous avez vu déjà la plaquette qu'on avait fait dans les années 82 ou 83. Il y avait toutes les implantations de commerçants sur le quartier. C'est impressionnant parce qu'il en reste pratiquement plus.
On se dit que si votre projet de paroisse voit le jour, il faudra faire un café en face parce qu'il n'y a pas d'église sans café en face, par exemple.
Oui, à une époque, on les a décriés. Hein, il fallait enlever les troquets. Hein, c'était les règles à l'époque. Des fois, on fait des blagues et c'est souvent lourd de conséquences. Hein, c'est pas toujours évident. Quand on ne se projette pas à travers les conséquences d'une décision, ça peut poser problème, quoi. Si on ne fait pas toutes les simulations, fatalement, celle à laquelle on n'a pas pensé, c'est celle qui se produit.
C'est celle qui se produit.
Donc c'est fondamental. Ça, Donc on ne les fait jamais toutes, d'ailleurs. Hein. Mais même les plus extrêmes, c'est important de les aborder.
Ouais. On va écouter un peu de musique et puis on se retrouve pour commencer à parler de l'histoire de Saint-Brice. On n'aura pas le temps de tout dire, donc on se donnera rendez-vous pour une prochaine émission dans 4 semaines. Hein. Mais d'abord, là, tout de suite, un peu de musique.
Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé, Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, ouais, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire, ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris. Regardez-moi.
C'était Carla Bruni qui n'était pas en direct dans nos studios et tout le monde, croyez-le bien, le regrette amèrement. Je reçois aujourd'hui Jacky Baroche, président de la Commune Libre du quartier de Saint-Brice à Chartres, et Jean-Michel Dujon, qui est un jeune membre de cette association très importante dans le tissu associatif chartrain pour tout ce qu'elle fait, notamment en matière d'animation de la ville. Il y a la fête des vendanges, je le disais tout à l'heure. Il y a aussi la Paulée des vins de Loire, dont vous êtes l'animateur, hein, je crois, Jacky.
Tout à fait. Enfin bon, on a quelqu'un de chez nous qui s'en occupe d'une manière importante. Et donc, avec le Grand Monarque, nous organisons le marché de la Paulée, place Billard, une fois par an. Donc là, c'est pas dimanche prochain, l'autre dimanche. C'est le 2 ou le 3, je ne sais plus.
Alors, on va parler de l'histoire du quartier, parce que c'est une histoire qui est tout à fait passionnante. Je l'ai dit à l'instant, enfin tout à l'heure, Jacky, vous êtes la mémoire vivante de ce quartier, parce que vous y êtes né, vos parents et vos grands-parents y sont nés. Alors, vous auriez pu vous contenter d'une fidélité géographique au quartier, ce qui est le cas parce que vous y demeurez. Nous sommes quasi voisins, mais vous avez en plus décidé avec quelques amis de faire vivre cette mémoire en menant des recherches et en les restituant via un DVD que vous m'avez gentiment offert. Ce DVD revient sur l'histoire de Saint-Brice depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Alors, on va en parler, mais on va peut-être tout d'abord rappeler que le passé glorieux du quartier remonte à l'époque de la Gaule romaine, gallo-romaine. Le service municipal d'archéologie de Chartres y a découvert les vestiges d'un sanctuaire dont les dimensions exceptionnelles en font, je crois, un des plus grands sanctuaires jamais découverts en France, gallo-romain. Donc vraiment, c'est un quartier qui baigne, on baigne dans l'histoire dans notre quartier.
Absolument, absolument. Mais là, bon, ce côté-là, on l'a découvert récemment.
Récemment, oui.
Après le départ des maraîchers. Parce qu'en fait, toute la vallée était, j'allais dire, occupée par les maraîchers. Il devait y avoir, après la guerre, je pense, une douzaine de maraîchers sur le quartier. Ouais. Alors, avec leurs traditions, avec la montée en ville, avec les légumes et les voitures à chevaux décorées. Enfin bon, c'était déjà les gens qui aimaient faire la fête et organiser un certain nombre de choses. Donc c'est vrai que on est dans une certaine continuité. Ouais. Et à partir de là, notamment le monde agricole et toutes ces traditions, ça a été le moteur de l'organisation de la Commune Libre, quoi, ouais. Je veux dire. Avec toujours la recherche de nouveautés, de thèmes nouveaux. C'était un petit peu un laboratoire d'idées, quoi, je veux dire. Alors, il y a des choses qui ont abouti, d'autres qui ne sont pas arrivées à leur terme, mais dans l'ensemble, on a toujours été à la recherche de nouvelles idées.
Vous avez même été, on va le dire maintenant quand même, cité en exemple par François Mitterrand.
Oui.
Hein, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Ah, tout à fait. Tout à fait. Lors de l'inauguration de la Commune libre à l'époque, faut savoir quand même qu'il y avait un certain nombre de personnalités qui suivaient l'activité de la Commune libre, que ce soit les autorités civiles, militaires, religieuses. On avait toujours le colonel de la base, l'évêque, les gens, tout le monde venait d'une manière systématique. La préfecture avait toujours, au moins le sous-préfet qui était là. On avait énormément de gens qui suivaient l'activité. Alors, il faut remettre tout dans son contexte. À l'époque, il n'y avait pas énormément grand-chose sur Chartres au niveau de l'animation. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu secoué le cocotier, quoi, je veux dire. Et alors, les gens ont suivi. Alors, c'est pas strictement au niveau du quartier, mais au niveau de la ville, complètement, quoi. Parce qu'en fait, on n'animait pas simplement le quartier. Toutes les manifestations drainaient les Chartrains et des gens autour de l'agglo, la petite agglo de l'époque, quoi, je veux dire. Mais bon, il fallait fatalement mettre en place une équipe. Mais on a rencontré, des gens qui ont toujours été favorables à ça, qui nous ont aidés d'une manière importante. On ne fait jamais les choses seuls.
Oui, bien sûr.
Mais l'adhésion a été totale, à telle enseigne qu'on avait déterminé, un périmètre habitant du quartier, avec des plaques, avec des devises, amitié, solidarité, détermination, s'il vous plaît. Donc ça, c'était les devises, les blasons et l'adhésion géographique. Alors c'est assez drôle. Ça, c'est une anecdote, mais c'est drôle.
Ouais, parce que oui, ça m'intéresse de savoir qui appartient, qui est.
Alors la délimitation, elle se faisait jusqu'au Gord, puisque la partie gauche du Gord appartient encore à Chartres.
Hein, on va dire, rappeler peut-être aux gens ce qu'est le Gord.
Alors le Gord, c'est maintenant, pour situer géographiquement, c'est la mairie du Coudray, si vous voulez. Hein. Là, c'était à l'origine, c'était une ferme. Donc ça partait de là. Ça prenait la rue des Perriers, la rue des Réservoirs, la rue des Vieux Capucins, la place Pasteur, et donc on remontait jusqu'à... on reprenait la rue Saint-Brice, la rue Vingt-Ans, la rue Renoir-Saint-Loup, la rue de Reverdy, la rue des Babours, les Marais, voilà. Enfin bon,
c'est un quartier populeux, hein.
Oh, j'allais dire que c'était un petit peu bourgeois dans l'ensemble.
Ouais. Mais il y avait beaucoup de monde, je veux dire, c'était très habité.
Oui, il y avait beaucoup de commerce. Et on a bénéficié fatalement de l'apport de commerçants, parce que dans les commerces, c'est là où le message passe, quoi. Donc ça, c'était très important. Donc on a eu la chance d'avoir peut-être une soixantaine de commerces à l'époque.
Oui.
Alors l'anecdote dont je voulais parler, c'est qu'à un moment donné, l'adhésion s'est faite d'une manière spontanée, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on avait délimité un quartier que l'on considérait comme les grandes limites, et on s'est aperçu que les gens de la Courtille, dans la descente, puisqu'en fait, dans la descente de la Courtille, sur le côté droit, il y a encore des maisons. Et jusqu'en bas, au niveau de la Petite Venise, ces gens qui habitaient par là ont souhaité être intégrés à la Commune libre. Donc on a remis une frontière en fonction de leur demande. C'était assez drôle. Donc c'est intéressant.
C'est poutinien, votre affaire, là.
C'est pas scientifique, mais c'est quand même une approche sociologique intéressante.
Ouais. Ouais,
incontestablement.
Ouais. Alors, on n'aura pas le temps, là, parce qu'il nous reste 5 minutes, mais on refera donc d'autres émissions pour parler de l'histoire. J'ai eu l'occasion de visionner le DVD que vous m'avez gentiment offert. Et on s'aperçoit que c'était un quartier à la limite de la ville et de la campagne.
Absolument.
On parlait des maraîchers, mais c'était des jardins immenses. Il y a des images.
Absolument.
Immenses, réellement. On a même du mal à se...
Ah oui, géographiquement parlant, ça partait justement du Gord, parce qu'il y avait des maraîchers au Gord, hein. Le Gord, la rue des Perriers, la rue de Reverdy. La rue de Reverdy, maintenant, ce ne sont que des constructions, mais là, vous aviez la maison des Fagnoux, c'était un parc immense. Il y avait les Wellards, il y avait une dizaine de maraîchers dans le coin. Et alors, la vie des maraîchers, c'était aussi une intercommunication avec les gens du quartier allaient chercher leurs légumes chez les maraîchers. Donc c'était des points de rencontre incontournables. Et là se créaient des liens. Et alors le deuxième élément qui n'est pas négligeable, c'était la présence des abattoirs. les abattoirs, avec tous les petits métiers qui tournaient autour des abattoirs.
Les tripiers.
Tripiers, boyaudiers, oui. Les halles au cuir. Et alors évidemment, incontournable, c'est le petit bistrot planté au milieu des Trois Marches dans la rue Vengeon, ouais. Qui n'existe d'ailleurs plus. Mais c'était le lieu de rencontre de tous ces gens-là.
Cet abattoir, il a fonctionné jusqu'à quelle période à peu près alors, c'est vieux, c'est on est là,
c'est
on
vieux,
est dans
c'est dans les années jusqu'à les, aux années 50.
Ah oui,
oui 50.
Donc c'est pas si vieux que ça.
C'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Non, les abattoirs, j'ai pas mémoire au niveau de la fermeture des abattoirs, mais ça a été hyper pénalisant pour le quartier, quoi, parce que la halle au cuir fonctionnait très bien, il y avait la suifferie, enfin, tous les métiers ouais. attenants aux abattoirs, bah, les cuirs, c'était bon, c'était pas toujours très agréable sur le plan de l'odeur, mais ceci dit, c'était une vie intense et combien riche. Quoi, je veux dire, au niveau des échanges. Quoi. Donc, c'est un quartier qui a toujours eu... Alors, là, il y a aussi, il y avait la communauté des sœurs, parce qu'il faut savoir que l'hospice fonctionnait avec un encadrement des sœurs de Saint-Paul, hein, ouais. je veux dire. Et tous les chefs de service étaient des sœurs. Il y avait quelques civils, mais les sœurs, je veux dire, régnaient en maître dans l'affaire. C'est-à-dire qu'ils avaient leur communauté sur place. Il y avait l'aumônier qui habitait sur place. Et alors moi, j'ai pas connu, mais à une époque, toutes les petites sœurs couchaient dans les soupentes. Et là, c'était absolument abominable parce que elles couchaient sans chauffage. C'était... Alors, on n'a pas réussi à garder les cellules. Il y en a encore quelques-unes, mais elles sont pas exploitables entre guillemets. Donc, c'était des cellules en bois qui étaient dans les soupentes, sans chauffage, sans lumière, hein, à la bougie, et elles logeaient au-dessus des anciens et des pensionnaires. Ouais. Et c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à garder quelques cellules à montrer. Parce que ça, c'est l'histoire locale aussi. Et hyper importante, quoi.
Ouais. Alors, vous n'avez peut-être pas conservé les cellules, mais les celliers, vous les avez conservés.
C'est vrai.
J'y suis entré.
On a changé d'étage. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on a remis en valeur le cellier. Maintenant, on le fait visiter d'une manière régulière par le biais de l'office, dans les journées du patrimoine, mais même ponctuellement, en fonction d'un certain nombre de demandes, on fait visiter le cellier. Là, on est aux normes. Alors, la ville est bien sûr propriétaire de l'ensemble, mais c'est nous qui l'avons aménagé. Mais tout toujours avec l'accord de la ville et en bonne harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut améliorer, ben on va peut-être éventuellement acheter le matériel, mais la ville le pose. Enfin bon, c'est un travail en commun qui est important de faire. Et ça se passe très bien, quoi. Ça se passe très bien.
Jackie et Jean-Michel, merci beaucoup d'être venus jusqu'à merci. Nous. Et la prochaine fois, c'est moi qui irai vous voir parce qu'on va faire sans doute plusieurs émissions cet été, des balades en été. Dans le quartier Saint-Brice, on ira sur les lieux où vous êtes né. Peut-être que vous avez grandi, Jackie, vous nous expliquez tout. Oui. Moi, je veux tout savoir sur les baroches.
Eh bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup. Un grand merci à Simon, à la technique. Et à
c'est
très bientôt.
Merci, au revoir.
Peinard, sur la grande mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuants mergitures, ce n'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'étaient pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre. C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'étaient pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confité or aux copains d'abord. Battery. Puis la guitare.